This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire, ou bien l'histoire revue et revisitée un peu avec l'histoire du jazz, ou quand le jazz retrouve ses repères, une émission de Alain Vaquier, Gérard Viols, réalisation technique Bruno Bertrand. Effectivement, nous sommes donc en 2001, année terrible pour les États-Unis avec l'attentat du World Trade Center, mais en 2001 également concernant le jazz, eh bien Norah Jones enregistre ceci.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Un ruban jaune pour écarter les curieux. Les abords du Pentagone à Washington ont vite pris des allures de poste médical avancé. Les premiers blessés sortent du siège du ministère de la Défense, hébétés. Selon des témoins, un avion de ligne s'est écrasé sur le Pentagone une heure après l'attentat du World Trade Center. Immédiatement, ce haut lieu de l'administration Bush a été évacué. À l'heure actuelle, un incendie ravage encore toute une partie du bâtiment. Impossible de connaître le nombre des victimes. En ce mardi, le ministère était plein. Ce centre névralgique de la défense américaine emploie 24 000 salariés. Une cible en plein cœur de la capitale fédérale. Du coup, tous les autres bâtiments officiels ont été aussitôt fermés.
Alors, que s'est-il passé au Pentagone le 11 septembre 2001? Eh bien, le vol 77 des cols de Dulles en direction de Los Angeles, c'est quand même un Boeing 757. Il décolle à 8h20. À 8h45, il atteint sa vitesse de croisière, son altitude de 35 000 pieds, et tout semble à la fois naturel et ordinaire à bord. Le détournement a lieu quelques minutes après. Silence radio total. Les aiguilleurs du ciel ne peuvent entrer en contact avec l'avion. À 9h29, le pilote automatique est désactivé. L'appareil vole à une altitude de 7 000 pieds et se trouve approximativement à 60 km du Pentagone. À 9h34, l'aéroport national Ronald Reagan informe les services secrets qu'un appareil non identifié se dirige vers la Maison-Blanche. Le vol 77 se trouve encore alors à 8 km au sud-ouest du Pentagone. Il va descendre à une altitude de 2200 pieds et se diriger immédiatement vers le Pentagone. Le pirate met alors plein gaz et se dirige vers le Pentagone. À 9h37, le vol s'écrase sur le Pentagone. Il n'y aura aucun, mais alors aucun survivant. Ce qui va entraîner et provoquer un peu le scepticisme de tout le monde, parce que tout le monde s'interroge pour quelle raison ça s'est passé comme ceci. Aucune explication logique ne sera fournie par les services secrets américains qui vont s'empresser de récupérer tous les documents ayant entré à cela. Et évidemment, on apprend bien, bien des choses.
24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingham, ancien pilote de F4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. Le seul dégât visible sur la façade du Pentagone est ce trou. Il n'y a aucun dégât à la hauteur des moteurs. Pourquoi les fenêtres situées à côté du trou sont-elles intactes ? Pourquoi les rouleaux de câbles devant le trou sont-ils en parfait état ? À l'intérieur du Pentagone, on a découvert un autre trou d'environ 5 mètres de diamètre de l'autre côté de l'anneau C à 3 anneaux de l'impact. Pour faire ce trou, le Boeing 757 du vol 77 aurait dû traverser près de 3 mètres de béton armé. Le nez d'un avion commercial est en fibre de carbone. Voici ce qui lui arrive généralement en cas de crash aérien. Si ce trou a été fait par le nez du Boeing, où sont les autres débris de l'avion ? Alors qu'est-ce qui aurait pu faire un trou de 5 mètres de diamètre dans l'anneau extérieur du Pentagone ? Traverser 3 mètres de béton armé et percer un autre trou de 5 mètres. Un missile de croisière. C'est qu'un 757 a deux réacteurs Pratt & Whitney fabriqués dans un alliage acier-titane, mesurant 2,70 m de diamètre et 3,60 m de long, et pesant 2 tonnes chacun. Le point de fusion du titane est de 1688 degrés Celsius. Le carburant utilisé par les avions est le kérosène, un hydrocarbure qui peut garder une température constante de 1120 degrés Celsius après 40 minutes, à condition qu'il ne se consume pas. Or, le kérosène s'est certainement évaporé tout de suite après l'impact. C'est pourquoi il est scientifiquement impossible qu'il ait pulvérisé 12 tonnes d'acier et de titane. Il aurait donc dû y avoir deux réacteurs presque complets au Pentagone. Au lieu de quoi, on a juste retrouvé un turboréacteur d'environ 90 cm de diamètre à l'intérieur du bâtiment.
Vous comprenez ainsi qu'après tous ces témoignages, l'Amérique s'interroge, le monde entier s'interroge quant à la véracité des faits. Et bien évidemment, le Pentagone lui-même et les services secrets et le gouvernement sont incapables d'expliquer ce rationnellement toutes les raisons qui font que tout le monde va douter de cet attentat. Il n'empêchera pour autant Diana Krall d'interpréter ceci le 22 juin 2001.
Now you say you're lonely,
you crying the whole night through. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you see you're sorry for being so untrue. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear, remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian, told me you were through. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river. Just to prove you do, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river. I cried a river over you. I cried a river over you.
Alors certes, les témoignages et analyses faites après les examens réalisés par le FBI ou les agents techniques qui ont apporté leurs informations dans un communiqué officiel faisant état à ce que je vous indiquais, donc le Boeing qui s'est écrasé et qui, lui, on n'a retrouvé aucune pièce pratiquement de l'appareil. Mais il y a aussi surtout les témoins extérieurs et notamment celui-ci qui va expliquer que eh bien, la trajectoire qui a été communiquée par l'UFBI ne correspond pas du tout à la trajectoire officielle de ce qu'il a vu, parce que lui était propriétaire d'un magasin situé à peu près à 3 km donc, du Pentagone, et il dit ceci.
Edward Paik, auto mechanic, independent interview recorded November 4th, 2006.
It almost hit these roofs over here.
Yeah.
So we saw it fly. It was coming from this way.
Mm-hmm. Coming from there to mm-hmm. this way.
Okay.
And then at the time, feelings, it looks like it almost hit my roof, that much lower. Kind of the body side, over the building, and the wing is at this way.
Oh, so you're saying the body was over the building?
Yeah, a little over here. The body, the turnover body here.
Okay. Body's there, okay.
That's the direction.
Et puis il y a aussi ce témoignage, lui, du prof qui a donné les leçons à l'école de pilotage à Freeway, et effectivement qui explique que Annie Adjoul, qui était venue prendre des cours, n'était pas venue prendre des cours pour apprendre à piloter parce qu'il avait sa licence. Il était venu, lui, tout simplement pour apprendre à atterrir. Ce qui paraît beaucoup plus interrogatif quant à la nature véritable de ce qui a pu se passer. Alors comment il expliquera, vous l'écouterez, que ce pilote-là était incapable de poser un Cessna. Donc imaginez comment pourrait-il, lui, diriger un Boeing et le faire atterrir, non pas sur le sommet, effectivement, du Pentagone, mais carrément à la base, au rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'on va ensuite analyser, et sur la pelouse, il n'y aura même pas une trace du Boeing. C'est-à-dire que tout le monde pensera qu'il s'est passé bien d'autres choses.
Je m'appelle Marcel Bernard. Je suis instructeur de vol à Freeway. Ce qui s'est passé, c'est qu'Annie Anjour est venue à l'aéroclub pour faire un vol de qualification. Il avait déjà sa licence. Il ne venait pas pour prendre des cours de pilotage.
Il avait donc déjà sa licence.
Oui, il avait obtenu sa licence privée et commerciale dans une école en Arizona. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il avait déjà sa licence en main. Il arrive parfois que des pilotes viennent non pas pour prendre des cours de pilotage, mais juste pour louer un de nos appareils.
Comme Annie Anjour.
Exactement. Il voulait faire un vol de qualification pour louer un de nos appareils. Les assurances imposent un vol test avec un de nos instructeurs afin de vérifier si la personne peut piloter. Et c'est ce qu'on a fait. Il nous a fait l'impression d'un type très silencieux et d'un pilote moyen, voire très moyen. Il parlait mal l'anglais. C'est la meilleure description que je puisse vous donner de lui. À l'époque, il nous est apparu comme quelqu'un de tout à fait banal.
Et pourtant, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Dulles qui suivaient le vol 77 ont tous pensé qu'il s'agissait d'un appareil militaire.
Et oui, effectivement, tout ceci est très contradictoire. Et puis, il y a cette preuve que certains et beaucoup diront irréfutable, c'est quand même ce lapsus de George Bush révélateur.
That is valuable information. For those of us who have the responsibility to protect the American people. He told us the operatives have been instructed to ensure that the explosive explosives.
Et oui. Lapsus révélateur où Bush, cette fois-ci, parle carrément d'explosifs. Et il est vrai qu'à partir de là, on peut interroger tout ce qu'on peut imaginer. Et en France, me direz-vous, en jazz, que se passe-t-il? Eh bien, on va arriver à une particularité. Biréli Lagrène va interpréter la mer.
Thank you.
Même en France, la présomption de complot sera abordée, et pas par n'importe qui. Ainsi, dans l'émission de Frédéric Taddeï, Mathieu Kassovitz, et oui, lui va déclarer ceci.
Mathieu Kassovitz.
Moi, je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 est un des éléments, évidemment, les plus marquants de notre jeune siècle, mais détermine aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 et la version officielle qui a été donnée par les Américains est obligatoirement questionnable. Il faut absolument se poser la question. On ne peut pas prendre l'information officielle de manière...
Pour argent comptant.
On ne peut pas. C'est impossible. Il suffit d'examiner ce qui s'est passé cette journée pour se poser des questions. Et le problème, c'est que les réponses n'ont pas été données par les commissions officielles américaines. À des réponses vraiment simples, des réponses de physique, des réponses de chimie, des réponses d'ingénierie. On parle pas de... Enfin, moi, je ne parle pas de complot, de choses comme ça, parce que c'est... On n'en est pas là pour l'instant. Le problème, c'est de savoir ce qui s'est passé sur cette journée, qui a été une journée quand même très, très spéciale, à beaucoup, beaucoup de niveaux, et qui a entraîné quand même une succession d'événements qui sont assez...
Vous faites allusion à l'invasion de l'Afghanistan ou de l'Irak.
Oui, basé sur des mensonges. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive.
Alors vous imaginez bien que notre trublion du PAF médiatique et du PAF politique ne pouvait pas rester en reste. Ce n'est pas son habitude à ce monsieur. Sa voix, vous la connaissez, ses propos encore plus. Mais ce qu'il a dit ce jour-là, vous ne le connaissiez peut-être pas.
Non, je ne parle pas d'Al-Qaïda. Moi, je ne sais pas. Ceci, c'est qu'il y a un écouteur. Normalement, ce n'est pas une chaise. Bon, alors si on dit que c'est une chaise, je ne le croirais pas. Bon, et je partage la suspicion de millions de gens par rapport à la thèse officielle qui nous a été avancée. Je voudrais citer un seul exemple, c'est celui du Pentagone. On nous dit qu'il y a un avion de ligne qui a percuté le Pentagone. On nous montre un trou de 6 mètres de diamètre et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors, on se moque de nous.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à une certaine forme de négationnisme, considérant que ça a été organisé entièrement par les Américains ?
Je sais que c'est un mot absolument abominable et qui mérite le bagne maintenant.
Vous dites ça en souriant.
Mais je ne suis pas, en effet, j'ai le droit de douter de cela et d'autres choses. Je crois avoir, en citoyen libre, le droit de douter de tout. On ne peut pas m'imposer de croire en quelque chose que refuse ma raison. Voilà.
Le doute, finalement, c'est votre marque de fabrique.
Oui, dans ce sens, voyez-vous, je suis assez voltairien de ce côté-là. Ça va vous surprendre.
Ce qui nous aurait surpris, c'est qu'ils disent rien par rapport à tout cela, c'est vrai. Mais ce qu'il oublie, Jean-Marie, on va l'appeler Jean-Marie, tiens, c'est qu'aux États-Unis, cela va déclencher, vraiment, encore une fois, de la part du peuple américain, une forme de défense de la nation. Et évidemment, tous les Américains, tous, pratiquement tous, vont se diriger dans les magasins pour aller acheter des drapeaux, pour les mettre aux fenêtres, sur leur voiture, un peu partout. Écoutez plutôt.
J'ai essayé d'en acheter un hier soir. Ils étaient en rupture de stock, donc je suis venu maintenant pour être sûr d'en avoir un. On va le mettre devant l'église avec un signe. Que Dieu bénisse l'Amérique.
Alors vous comprenez bien que par rapport à toute cette forme de défense de l'Amérique, le président Bush ne peut pas faire autrement que faire un discours. Cette fois-ci, ce sera un discours officiel dans lequel il va dire tout simplement en quelques mots que, eh bien... son devoir, c'est de protéger le peuple américain, à la fois sur le sol américain, mais en dehors. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et également qu'à partir de là, eh bien, si les fondations du World Trade Center ont été atteintes, la nation américaine, dans sa puissance, n'a jamais été atteinte, que le gouvernement est toujours là et que lui, fier guerrier comme il est, va déclencher ce qu'on appellera plus tard la deuxième guerre d'Irak. George Bush.
Good evening. Today, our fellow citizens... Our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow.
Américains, rassurez-vous, que vous soyez sur le territoire américain ou hors États-Unis, vous êtes sous la protection de George Bush et rien ne peut vous arriver. Il vous protégera jusqu'au bout de la vie. C'est ça, George Bush. Mais ça, c'est une autre histoire qui va déclencher la deuxième guerre en Afghanistan.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Weir en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.